Nous avons dans l'Écriture des lettres de l'apôtre Paul qui datent de peu de temps avant la fin de sa vie. Il ne savait pas que ce serait bientôt la fin, mais il se doutait que des risques encourus. Et alors, il écrit à ses enfants spirituels, il écrit à Timothée, à Tite. Ce sont donc les derniers textes que nous avons de l'homme Paul. Et les derniers conseils d'un homme à ses enfants spirituels sont certainement des conseils importants, majeurs, pour notre vie, pour la vie de Timothée, pour la vie de Paul, de Tite, mais aussi pour notre vie à nous aujourd'hui. Et c'est donc un de ces conseils que nous trouvons dans la première épître à Timothée au chapitre 1er et au verset 19 que j'aimerais évoquer ce matin. Paul dit « Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Je voudrais relire ce texte. « Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. » Se pose à la lecture de ce texte, à l'écoute de son conseil de l'apôtre Paul, une première question. C'est en tout cas cette question que je me suis posée. Et qu'est-ce que l'apôtre entend par une bonne conscience? Il ne faut jamais répondre trop vite. Il faut s'arrêter et essayer de comprendre, il faut réfléchir à la chose. Alors, est-ce que l'apôtre Paul évoque une conscience qui ne nous reproche aucun péché? Est-ce qu'il évoque ici une conscience qui ne nous reproche aucune négligence? Est-ce qu'il évoque ici une conscience qui ne nous reproche aucune pensée coupable? Alors certes, une bonne conscience peut être cela, mais je ne crois pas que c'était là la pensée de l'apôtre. Vous savez que l'homme Paul va dire des mots le concernant, premier des pécheurs, qu'il rencontre sur le chemin de la vie et des difficultés qu'il fait, le mal qu'il ne voudrait pas faire. Et il est certain que l'apôtre Paul a découvert que cette conscience a besoin de la purification chaque jour du Seigneur Jésus. Alors, on se pose une autre question. Est-ce une conscience satisfaite de soi? Est-ce une conscience satisfaite des choses accomplies que cette bonne conscience? Il y a dans les évangiles une très très belle parabole du Seigneur Jésus. Il nous parle d'un pharisien et d'un publicain. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, nous découvrons que le pharisien est là, dans le temple devant Dieu, et il y est avec une conscience satisfaite, une conscience qui se persuade d'être juste, je suis juste. Et il y a à côté de lui l'autre homme, le publicain, qui lui est avec le sentiment du péché, avec le sentiment de l'injustice qui habite sa vie. Il se frappe sur la poitrine et il crie, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Et Jésus va évoquer ces deux hommes et montrer que celui qui se persuade d'être juste, d'avoir une bonne conscience, est en fait sur un mauvais chemin, et que celui qui est avec une conscience délicate, avec le sentiment de la faute du péché, est sur le bon chemin. Alors, se pose cette question, qu'est-ce que l'apôtre entend par une bonne conscience? Est-ce l'homme qui est ce matin-là, la femme qui est ce matin-là parmi nous, satisfait de lui-même? Ou est-ce l'homme, la femme, qui ressemble à ce publicain? Une bonne conscience est toujours humble et passe toujours par ce chemin dont nous parle le Seigneur Jésus. Une bonne conscience, a-t-on dit, provient du sentiment qu'on est ce qu'on doit être et qu'on fait ce que l'on doit faire. Une bonne conscience provient du sentiment du devoir accompli et d'être vraiment dans le chemin de Dieu. Alors j'aimerais évoquer avec vous un petit peu plus cette bonne conscience. Et je dirais en premier point que nous avons une bonne conscience lorsqu'il y a de la liberté dans nos rapports avec Dieu. Lorsque je peux m'approcher de Dieu et que je me sens accueilli de Dieu et que je dépose mes péchés, mes fardeaux aux pieds du Seigneur, lorsque j'ai cette liberté de la relation, du contact avec mon Père Céleste. Sans cette liberté, sans ce contact, cette intimité, l'homme, le chrétien, est et reste mal à l'aise et reste tourmenté, inquiet. Il n'y a en fait qu'une seule chose qui trouble réellement notre communion avec Dieu, c'est une mauvaise conscience. Ne vous est-il pas arrivé de chercher à vous approcher de Dieu, de prier Dieu avec une mauvaise conscience? Alors, vous avez découvert, comme moi, que l'on peut prier, que l'on peut même se mettre à genoux devant Dieu, que l'on peut prononcer des paroles, que l'on peut prononcer des phrases toutes faites, des phrases habituelles. Mais quand on se relève de ce temps, c'est comme si on n'avait pas vraiment prié. Et on a ce sentiment que l'on ne s'est pas réellement approché de Dieu. Parce que je me suis approché de Dieu avec une mauvaise conscience et que ma mauvaise conscience mettait un obstacle à une réelle communion avec le Seigneur. Vous le savez. Et certainement autant que moi, que dans tous nos rapports avec le Seigneur, il en est ainsi. Dans tout ce que je fais, si je ne suis pas approuvé de Dieu, si je ne me sens pas approuvé de Dieu, eh bien, mes relations avec le Père deviennent des relations difficiles. Lorsque mon cœur n'est pas droit, lorsque je ne marche pas dans le chemin droit, je sens dans ma vie et dans mes rapports avec Dieu cet obstacle, ces difficultés de relation. Placé dans une relation injuste, il ne faut surtout pas que j'attende les grandes bénédictions d'en haut. Et je voudrais redire ce mot, nous avons bonne conscience lorsqu'il y a de la liberté dans nos rapports avec Dieu. Il nous faut chercher constamment cette parfaite liberté de contact et de relation avec le Père. Et le publicain nous en a montré le chemin, qui est un chemin de confession et un chemin de pardon. Alors j'aimerais encore aller plus loin en évoquant avec vous cette conscience pour vous dire que pour avoir, pour posséder la joie d'une bonne conscience, il faut être en accord avec nous-mêmes, il faut être en accord avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous pouvons, à la rigueur, nous passer de l'approbation des autres. Mais étrangement, dans la vie vraie, intérieure, nous ne pouvons nous passer de notre propre approbation. Il y a, sur le chemin de nos vies, certains mécontentements dû à des manquements, dû à des négligences, dû au fait qu'on n'a pas accompli vraiment ce que Dieu nous demandait d'être ou de faire. Et ce mécontentement-là est juste. Ce n'est pas de cela que je parlais, mais c'est de ce mécontentement qui est le fruit d'une mauvaise conscience, de cette amertume et qui jaillit du fruit de la désobéissance. Vous savez ce qui arrive dans le jardin d'Éden à Adam et Ève avec ce fruit de la désobéissance. Ils connaissent une conscience mauvaise, difficile, et ils découvrent le mécontentement et le mécontentement de ce qu'ils sont eux-mêmes. pour avoir une bonne conscience, il faut pouvoir avoir ce témoignage intérieur qu'on est dans le bon chemin, dans le chemin de Dieu, qu'on s'efforce tout du moins, pour le moins, de marcher comme Dieu le veut. Ce témoignage intérieur, ce n'est pas seulement une joie, c'est également une force pour notre vie. Une mauvaise conscience produit le découragement, produit l'abattement. Et parfois, on est avec une mauvaise conscience parce que, ayant vécu ou fait certaines choses, on est dans le découragement, dans l'abattement, et on y persévère. Certains, c'est étonnant, persévèrent pendant des semaines, pendant des mois, et ils se demandent pourquoi un malaise intérieur, pourquoi leur faiblesse sur le plan spirituel. Le texte nous dit qu'une bonne conscience nous aide à garder la foi. Et Paul nous précise que c'est en abandonnant cette bonne conscience que plusieurs ont fait naufrage quant à la foi. Le mot ne peut pas être plus direct. Abandonner une bonne conscience, c'est préparer le naufrage de notre vie, de notre foi. Ici, foi et conscience vont de pair. Foi et conscience sont en quelque sorte unis, placés côte à côte. On pourrait dire que foi et conscience se servent mutuellement d'appui. Alors on pourrait dire deux choses. En écoutant ces deux mots que Paul positionne côte à côte, on pourrait dire tout d'abord telle foi, telle conscience. Alors je m'explique. On pourrait dire que c'est la foi qui fournit à la conscience des principes, qui fournit à la conscience un idéal. En fait, le Dieu auquel je crois détermine ma conscience. Si je crois que Dieu est un bon père, un bon grand-père, qui ne punit jamais, qui est un peu indifférent à notre marche, à ce que l'on fait le long de notre chemin, eh bien, ma conscience va agir en conséquence. Ma conscience va être indulgente et accepter toutes sortes de compromis, accepter toutes sortes de choses dans ma vie. À l'opposé, si je crois en un Dieu saint qui a le mal en horreur, eh bien ma conscience m'ordonnera de lui ressembler. Ma conscience sera dans la crainte de vivre ce qui déplaît au Seigneur. Telle foi, telle conscience. Dites-moi ce que vous croyez et on découvrira comment est votre conscience. Et j'aimerais dire à ce propos que notre foi devrait être celle de l'Écriture et notre conscience ainsi déterminée par ce que nous avons découvert vraiment dans l'Écriture. Je dirais que la réciproque est également vraie. Dans une première phrase, je vous ai dit telle foi, telle conscience. Ben, j'aimerais vous dire telle conscience et telle foi. Une mauvaise conscience peut conduire à l'incrédulité. Faites ce qui vous semble bon. Marchez comme vous avez envie de marcher. Et l'Écriture nous le dit, vous découvrirez sur le chemin de votre vie le naufrage de la foi. Vous découvrirez et que le bateau ne va pas résister aux vagues, aux assauts, aux intempéries. Si je regarde les textes de l'Écriture, et je me permets de contester, et je me permets de discuter, et je me permets d'argumenter l'autorité de la Bible, le bien fondé, des textes que Dieu nous donne, des principes qui sont là dans l'Écriture. Il n'y a aucun doute à avoir. Telle conscience, telle foi, on va briser le bateau de la foi. Alors, parfois, ce sont les écueils des passions, des convoitises, des choses difficiles de la vie et qui amènent le naufrage. Alors, Paul est très clair, n'est-ce pas, dans son texte. Il dit, n'est-ce pas, à son fils spirituel, garde la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné et ont ainsi fait un naufrage en ce qui concerne la foi. Ils ont abandonné, ils ont laissé de côté les principes de l'Écriture, les enseignements de l'Écriture pour mener une vie selon leurs principes à eux, selon les principes du temps, du moment, ils ont poursuivi le chemin et ils ont découvert un jour le naufrage dans leur propre vie. Permettez-moi encore de vous dire que les choses n'ont pas changé. Entre ce premier siècle et le siècle que nous vivons, que ce qui était du temps de Paul pour les croyants, l'est également encore pour nous. Si on se permet d'avoir une conscience chargée avec des difficultés de relation avec Dieu, avec les hommes, eh bien, nous sommes sur le chemin du naufrage. Alors, j'en viens à un dernier point sur le que faut-il faire pour conserver une bonne conscience. Alors, une première affirmation, comme je prends soin de mon corps, eh bien je dois prendre soin de ma conscience. Je me préoccupe de manger et de boire, de me laver, de m'habiller, de faire du sport, de faire régime, de faire plein de choses pour être bien dans mon corps. Eh bien, on a besoin de faire des efforts pour être bien dans sa conscience. On n'a pas bonne conscience comme cela, ça ne tombe pas comme cela d'en haut. L'appel dans le texte biblique est fort. Et on pourrait aller vers la deuxième épître de Jean où il y a cet appel à une âme qui devient de plus en plus grande, belle pour le Seigneur. Il faut prendre soin de son âme, de sa conscience. Et ensuite, il faut cultiver une conscience. Il faut chercher jour après jour à ce que cette conscience reste pure, reste belle. Quand dans un jardin, on découvre de belles fleurs, un jardin propre, c'est qu'il y a un jardinier qui est passé par là. Il a arrosé, il a enlevé les mauvaises herbes, il a travaillé pour que le terrain soit beau. Eh bien, il en est de même avec notre conscience. Est-ce que vous prenez soin de votre conscience? Est-ce que vous cultivez votre conscience pour qu'elle soit pure, pour qu'elle soit un jardin tout beau? Et cette conscience, le texte est là encore à nous dire qu'il faut la garder. Et pourquoi faut-il garder? Sinon parce qu'il y a des risques, sinon parce qu'il y a des ennemis, sinon parce que sur le chemin, il y a des risques majeurs de perdre cette bonne conscience. Nous avons des ennemis de toutes sortes, déjà nous-mêmes, mais aussi avec ceux que nous côtoyons, avec les choses du monde, avec l'ennemi. Il faut garder une bonne conscience pure, se méfier de ce que l'on peut dire, entendre, voir. Il faut faire attention à une multitude de choses et quand des choses arrivent, s'approcher du Seigneur le plus rapidement possible pour déposer à ses pieds ce qui vient en herbe mauvaise sur notre conscience. Et je crois que le jardin a besoin d'être cultivé et soigné chaque jour. En ce moment, il faut arroser. C'est vrai que c'est interdit peut-être, mais nos plantes ont besoin d'être arrosées d'eau, de fraîcheur. Il en est de même avec notre conscience. Une conscience que l'on préserve des assauts de l'ennemi. Oh, j'aimerais vous dire avec ce texte, pour ces jours qui sont devant nous pour ces jours d'été, combat, le bon combat de la foi. Garde la foi et une conscience, une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est être sur le chemin de la vie vraie, de la vie forte, d'une vie à la gloire de Dieu. Et quand les choses sont difficiles, quand l'ennemi a mis de l'embrouille, quand l'ennemi a mis des obstacles, venons et revenons au pied de la croix pour tout déposer et repartir avec le Seigneur. C'est le chemin de la vie et de la victoire. Alors, soignez bien votre conscience.